ici à nouveau. Alors on va lire dans le dernier chapitre du livre de Job, le chapitre 42 et le verset 7. Voilà, le livre de Job, le chapitre 42 et le verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Amen. Voilà, Job était un homme exceptionnel, remarquable aux yeux de Dieu lui-même, et plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions être ainsi. L'Écriture dit que cet homme était intègre et droit, qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Et pourtant, dès les premiers chapitres du livre de Job, nous assistons à toute une série de catastrophes qui s'abattent sur cet homme. Il perd tous ses biens, d'où l'expression « pauvre comme Job ». Il perd, qui plus est, ses 10 enfants dans une tragédie familiale, voyez, un cataclysme qui survient. Et nous le voyons passer au sein de terribles épreuves. Il perd même sa santé. Sa femme, ne lui jetons pas trop la pierre, n'y comprend plus rien à toutes ces histoires. Et elle perd courage, elle lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que 3 de ses amis... viennent le visiter et ils l'accusent en disant que certainement, s'il lui arrive tous ces malheurs, tous ces problèmes, toutes ces souffrances, c'est qu'il a dû faire quelque chose de très, très, très mal pour être particulièrement désagréable à Dieu et que, de ce fait, eh bien, Dieu le punit. Le bon Dieu t'a puni, comme disent les gens. Mais il n'en était rien. Job n'avait rien fait qui puisse mériter un tel châtiment. Comme quoi, vous voyez, même quand on est croyant, on n'est pas forcément épargné par les coups du sort. J'aimerais vous dire que si vous devenez chrétien, tout ira bien et que vous n'aurez plus aucun problème et que vous traverserez la vie et qu'elle sera pour vous, comme on dit, comme un long fleuve tranquille. Mais si je vous disais ça, eh bien, ce ne serait pas vrai. Parce que la parole de Dieu tout entière, le cas de Job est là, entre autres, pour nous le démontrer, nous révèle que le croyant, il peut être affligé, il peut subir toutes sortes d'événements fâcheux. Alors on dira, mais où est la différence? La différence est dans le fait que, dans l'épreuve, Dieu est avec nous quand nous lui appartenons. Et ça change tout. Et finalement, Job est sorti de sa détresse, Dieu lui a fait grâce, mais Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas satisfait, non pas à l'égard de Job tellement, mais à l'égard de ses 3 amis, justement parce qu'il l'avait accusé, et il l'avait accusé à tort. Et voici le reproche que Dieu leur fait. « Ma colère est enflammée contre vous, et contre toi et tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et ainsi, il a fallu que ces 3-là offrent un sacrifice et puis qu'ils en réfèrent à Job pour que Job prie pour eux en leur faveur, voyez. Ils lui avaient tapé dessus, hein, par leurs paroles véhémentes, désagréables, mais Job ne leur en a pas tenu rigueur et il a prié pour ces 3-là. Et à la fois du fait du sacrifice et du fait de la prière de Job, Dieu a fait grâce. Et il a pardonné, il a absous ses trois fameux amis, et le jugement que pourtant ils méritaient ne les avait pas atteints. Et voyez-vous, en cela, eh bien, il y a pour nous une leçon. D'abord, j'attire votre attention sur cette parole, ce reproche que Dieu fait à ces trois hommes, les trois amis de Job. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Ils avaient manqué de droiture. Qu'est-ce que c'est que la droiture ? La droiture, c'est ce qui est conforme à la règle. La droiture, c'est ce qui est conforme à la justice. Et en l'occurrence, la règle dont il est fait mention ici, c'est la règle que Dieu a établie. Ce que lui a défini comme étant droit et juste, et ce que Dieu a défini comme étant droit et juste, nous le connaissons par la Bible qui est sa parole. Il nous instruit, il nous enseigne sur ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est droit et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est injuste. Et donc la droiture consiste à vivre en accord avec sa parole. La droiture de cœur consiste à obéir à ses commandements, à les mettre en pratique. Et c'est là que se situe le problème. Parce que, à part Jésus, mes amis, personne ne l'a jamais fait, ça. Personne ne peut dire, eh bien, réellement, parfaitement, en toutes circonstances, je n'ai jamais failli aux règles que Dieu a instituées. Non, non, non. Même ceux qui ont essayé ont échoué. C'est pourquoi un homme de la Bible disait « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, chacun d'entre nous peut vous dire « C'est vrai, ça, je l'ai vérifié. » J'ai touché du doigt qu'en diverses circonstances, j'ai essayé de tout mon cœur de faire ce qui était bon, et puis patatrac, malgré mes résolutions, mes bonnes intentions, mes promesses, mes affirmations, mes efforts, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous sommes des pécheurs. Le contraire de la droiture, c'est très clair, c'est très simple. Le contraire d'être droit, c'est quoi ? C'est être tordu, excusez-moi, mais il faut le dire comme ça. Le contraire d'être droit, c'est être tordu et tortueux, perverti. Et la Bible dit que sur le plan moral, c'est notre condition, vous voyez. Dans l'Épître aux Romains, voilà, il y a un passage particulier à ce sujet, au chapitre 3. Voilà, comme ça, si on se fait des illusions, on ne s'en fait plus après avoir lu ça. Il est écrit ceci, Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, écoutez ça, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. La voilà la distorsion, la perversion. La voilà le cœur humain tordu. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Voilà en quelques lignes le diagnostic que Dieu établit à propos de la condition morale de l'être humain. Et le texte nous dit, n'est-ce pas, tous sont pervertis. Voilà. Il y a quelque chose, ça veut dire, de foncièrement tortueux, tordu, mauvais en chacun d'entre eux. L'origine de cette distorsion, de cette perversion, se trouve dans notre cœur. Quand la Bible parle du cœur, elle ne parle pas de la pompe cardiaque que nous avons là dans notre poitrine, Quand la Bible parle du cœur, elle parle de ce qui constitue le plus profond de notre être moral et spirituel, voyez. Et qu'en dit la Bible? Eh bien, dans le livre du prophète Jérémie, je lis ces paroles au chapitre 17 et au verset 9, il est écrit ceci, « Le cœur est tortueux », vous voyez, on y revient, tortueux, tordu, pervers. « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Votre cœur, le mien aussi, il est tortueux, il est mauvais, il est perverti. Jésus va reprendre cette idée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Vous savez, chez les Juifs, il y avait toutes sortes d'ablutions rituelles. Et lorsqu'on revenait de la place publique, alors il fallait, eh bien, se laver consciencieusement les mains. Pas dans un souci d'hygiène, ça c'est très bien, mais parce que rituellement, il fallait conserver ou retrouver la pureté. Et Jésus leur a montré que ça tenait pas debout. Parce que le fait de se laver les mains, ça purifiait pas le dedans. Hein. Et il a dit que ce qui souillait, c'est pas ce qui rentrait dans l'être humain, c'est ce qui en sortait. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, Jésus dit ceci, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Et puis on pourrait mettre point de suspension parce que la liste des péchés que les êtres humains sont en mesure de commettre est fort longue. Vous voyez, c'est du cœur. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est pas clair. C'est là que c'est pas net. C'est là que c'est pas droit. C'est là que c'est pas pur. C'est là que c'est pas conforme à la règle que Dieu a établie. Vous savez, d'une source polluée, il ne peut jaillir qu'une eau polluée. C'est terrible quand la source est polluée. Lorsque j'étais enfant, je passais mes vacances dans un petit village du sud-ouest, et là, il y avait une source. Et fréquemment, j'allais boire à cette source qui était, ma foi, fort fraîche. Et puis, lorsque je suis revenu, il y a quelques années de cela, surprise, il y avait un panneau pour interdire formellement de consommer de cette eau, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, peut-être les pesticides, les nitrates, les phosphates et tout le reste. La source était polluée, dites. C'était la même source qu'il y avait 20 ans ou 30 ans avant, mais elle était polluée. Et l'eau apparemment, c'était la même, mais non, ce n'était pas la même, parce qu'elle était polluée. Votre cœur est le mien, mes amis. Il est pollué par le péché. Par le péché. Eh oui, les paroles humaines sont tordues et tortueuses. C'est écrit là. Leur gosier est un sépulcre, un tombeau ouvert. D'où, ça c'est moi qui le dis, s'exhale des propos infects, nauséabonds, méchants, mauvais, impurs. Jésus dira à ses contemporains, comment pourriez-vous faire le bien? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car, disait-il, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis, pas que les paroles, les actions humaines sont tortueuses également. Que de perversion, que de dépravation, que de corruption dans les mœurs. On y est en plein ce que dit la Bible. Elle nous avertit que viendra un temps où les hommes appelleront mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. Non mais, vous ne croyez pas que c'est vrai ça? On le vit ça. On l'entend, il y a des fois on est en la renverse, on se dit mais c'est pas possible. Ils sont tombés sur la tête. Hein. Et c'est ainsi. Que de coups tordus, que de malhonnêteté, que de fraude, que de tricherie à tous les échelons de la société, du plus haut au plus petit ou du plus petit au plus haut, prenons-le dans le sens que vous voulez, c'est pareil. Hein? Je cite le cas de cette jeune fille chrétienne qui, peut-être je vous ai rendu ce témoignage, elle a acheté un stylo un stylo de valeur, de prix. Et puis elle a acheté quelques autres petites bricoles. Et quand elle sort du magasin, elle s'aperçoit que la vendeuse, figurez-vous, a oublié de compter le stylo. Alors, parce qu'elle est chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient et elle dit à la vendeuse, vous êtes trompée là. Hein, vous ne m'avez pas fait payer le stylo. Alors l'autre, elle était émerveillée, merci, merci, merci. Et puis, la jeune fille chrétienne, elle raconte cette petite histoire à ses collègues de travail. Et les collègues de travail qui ne sont pas chrétiennes, elles lui disent, oh, si ça avait été moi, j'aurais gardé le stylo sans rien payer. Vous voyez que le cœur humain, il est mauvais. Il est tortueux. Et ces filles-là, ce n'est pas des gangsters. Hein? Non, non. C'est des gens, entre guillemets, j'allais dire normaux. Mais c'est ça la norme aujourd'hui. On appelle mal ce qui est bien, et bien ce qui est mal. T'as pas été malhonnête, une nigaude. T'aurais dû en profiter. Ça, c'est la morale du monde. Ça, c'est l'état d'esprit du monde. Le cœur humain, il est perverti. Il est perverti. Voilà ce que nous montre la parole de Dieu. En dehors de la grâce de Dieu, c'est notre lot à tous. Tous sont égarés, nous dit le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Tous sont pervertis. Ne dites pas, oh, je ne suis pas si mauvais que ça. Mais non, la parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu, il n'y a pas un juste. Pas même un seul. Pas une exception. Tous concernés. Alors de ce fait, ça provoque la colère de Dieu. Vous voyez ? Les trois amis de Job, on revient à eux. Dieu a dit, ma colère est enflammée contre vous parce que vous n'avez pas parlé selon la droiture. Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Elle est différente de la colère des hommes. La colère des hommes, souvent, elle est aveugle. Elle est incontrôlée. La colère de Dieu est d'une autre nature. La colère de Dieu, on peut la définir comme étant l'indignation de sa sainteté qui a été outragée. La manifestation de sa justice qui exige que le mal soit puni, soit châtié, soit sanctionné. Dieu n'est pas méchant, mes amis. Il est juste. Et parce qu'il est juste, la Bible dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, le coupable sera condamné. L'Épître aux Romains, dans son chapitre 1er et au verset 18, nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute l'impiété ou l'injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes. Ailleurs, dans cet Épître aux Romains, encore au chapitre 2, verset 5, il est dit « Tu t'amasses un trésor de colère ». Du fait de ton impénitence, c'est-à-dire du fait que tu refuses de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la manifestation du jugement de Dieu. Alors, l'Épître aux Romains, à laquelle je fais allusion, c'est une épître qui traite du salut. Elle nous présente la grâce de Dieu et le moyen d'être pardonné, le moyen d'être sauvé, le moyen d'être racheté de nos péchés, le moyen d'être restauré, de retrouver le contact avec Dieu et d'être béni, de pouvoir un jour aller dans le ciel. Et ce thème du salut par la grâce de Dieu manifesté en Jésus-Christ est abondamment développé dans les pages de l'Épître aux Romains, d'une épître capitale. Mais avant de parler de la grâce, du salut, du pardon, de la rédemption, cette épître commence par affirmer la colère de Dieu. Pourquoi ça? C'est très simple. Parce que pour être sauvé, il faut d'abord réaliser que l'on est perdu. Eh oui. Si on n'a pas conscience d'être perdu, on vit dans l'illusion, une illusion dangereuse. Et un homme de la Bible s'écriant dans la présence de Dieu, malheur à moi, je suis perdu. Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas encore converti à Jésus-Christ, je souhaite de tout mon cœur
que vous puissiez avoir cette réaction et que vous puissiez dire « Malheur à moi, je suis perdu ». Parce que si vous prenez conscience de votre état de perdition, alors vous serez amené par là même à venir vous réfugier dans la miséricorde de Dieu en lui demandant, le suppliant de vous sauver. Oui, sans Christ, on est perdu. Perdu, perdu, perdu. Voué à la condamnation, voué à l'enfer, voué au juste jugement de Dieu. Si tu en restes là, avec ton cœur tortueux, on vient d'en parler, le châtiment t'atteindra d'une manière irrévocable. Mais justement, alléluia, Christ est venu. Christ est venu. Et il y a un verset de la Bible qui dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, voyez. Jésus n'est pas venu simplement pour faire de la morale. Il n'est même pas venu pour faire quelques guérisons, même s'il en a fait beaucoup de guérisons. Mais il est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et dans notre récit, revenons à notre récit de Job. Pour que les trois coupables soient épargnés, là, les amis de Job, il a fallu deux choses, je vous l'ai dit au début. D'abord, il a fallu qu'un sacrifice soit offert. Dieu a dit, voilà, vous prenez des agneaux, des taureaux, vous leur coupez la gorge et vous offrez ce sacrifice. Voilà, vous mettez tout ça sur l'autel et au travers de ce sacrifice, mon pardon pourra vous être assuré. Un sacrifice a été offert en faveur des trois amis. Savez-vous, mes amis, que pour nous aussi, un sacrifice a été offert. Ce sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Jésus est le sacrifice. Tu n'as plus, toi, à offrir de sacrifice. Jésus est le sacrifice. Un verset de la Bible dit qu'il s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, et à cause de cela, il est en mesure de purifier notre conscience par son sang qui a été versé, répandu à la croix du calvaire. Quel est le sens de ce sacrifice? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi la croix est-elle devenue le symbole par excellence du christianisme? Pourquoi le souvenir de la croix est constamment dans notre culture chrétienne rappelé? Pourquoi les croix dans le cimetière? Pourquoi les croix dans des lieux de culte? Pourquoi des croix dans la campagne, à la croisée des chemins? Pourquoi? Parce que la croix, c'est l'événement central, mes amis. Parce que sur la croix, Jésus a accompli l'œuvre parfaite par laquelle vous et moi, nous pouvons échapper justement au jugement de Dieu. Quel est le sens de ce sacrifice? Pourquoi est-il mort? Il est mort chargé de nos péchés. Jésus fut frappé à notre place par la colère de Dieu contre nos péchés afin que nous soyons épargnés, afin que nous soyons arrachés à la malédiction, à la condamnation que nous méritions. Il y a eu un transfert. Il y a eu une substitution. Il a pris mon péché et j'ai reçu sa grâce en retour. Comprenez-vous? Il a pris mon châtiment et j'ai été épargné en retour. Il a accepté de subir les assauts du courroux divin pour que moi, en retour, je puisse être épargné. C'est le sens de la croix. Il a fait ça pour toi, mon ami. Il a fait ça pour toi. Et si tu en reçois la révélation, tu ne peux pas rester insensible. Tu ne peux pas, eh bien, repousser plus longtemps le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Je vous ai dit tout à l'heure que pour que les trois amis de Job soient épargnés, il a fallu deux choses. Le sacrifice. Et puis la prière de Job. Et même pour nous, c'est pareil. Le sacrifice, c'est Jésus sur la croix. Mais Jésus, ressuscité, s'en est allé auprès de Dieu son Père, et l'Écriture dit que là-haut, il intercède, il prie pour nous. Alléluia. Je suis heureux de savoir que Jésus prie pour moi. Et plus d'une fois, certainement, sans même que j'en aie conscience, eh bien, si j'ai pu être tiré d'affaire, et si avant tout j'ai pu bénéficier du pardon de Dieu, c'est grâce à l'intercession de Jésus-Christ auprès du Père. C'est grâce à sa prière en ma faveur. Si vous vous réclamez de lui, de Jésus, si lui confessant vos péchés, vous faites appel à lui, si vous mettez votre foi en lui, réalisant qu'il a tout accompli, qu'il a souffert pour vous, alors, si vous faites ainsi, il plaidera votre cause devant Dieu le Père, afin que vous soyez sauvés. L'Écriture dit, si quelqu'un a péché, il y a quelqu'un qui n'a pas péché là? Alors, si quelqu'un a péché, personne n'ose lever le doigt, et vous avez raison. Donc, ça nous concerne tous. Et le texte auquel je fais référence dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Il plaide notre cause. Il prie en notre faveur. Voyez. Et quant aux trois amis de Job, Dieu dira, c'est uniquement par égard pour Job que je ne vous traiterai pas selon votre folie. C'est uniquement à cause de lui, à cause de Job, par égard pour la personne Job, que Dieu leur a fait grâce. Vous savez quoi? C'est uniquement à cause de Jésus, grâce à Jésus, que nous pouvons être sauvés. Personne ne pourra arriver au ciel en disant, ah, j'y suis à la force du poignet. Hein? Ah, vous pouvez croire que je l'ai bien mérité. Hein? Je me suis gagné le ciel, comme disent les gens. Non, 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 non. Le ciel ne se gagne pas parce que Jésus l'a gagné pour nous. Jésus l'a mérité en notre faveur. Le ciel, ça se reçoit par grâce, comme un cadeau. Au moment où je réalise ma pauvreté spirituelle, mon état de perversion, mon cœur mauvais, mon cœur infect, on en a parlé tout à l'heure en long, en large, en travers. Et lorsque dans cet état je viens vers le Seigneur, lui disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. J'accepte de croire que le Christ a dû donner sa vie sur la croix pour m'arracher à la condamnation que je mérite. Alors, pardonne-moi, sauve-moi, je te fais confiance. » À ce moment même, la miséricorde de Dieu se manifeste. Et même les plus grands coupables peuvent être sauvés. Alléluia. C'est merveilleux la grâce du Seigneur, vous ne trouvez pas? Une vie qui peut changer, une vie qui peut basculer du bon côté, du quel côté êtes-vous? C'est uniquement à cause de Jésus. Vous ne pouvez rien ajouter de plus à ce qu'il a fait pour vous pour être agréable à Dieu. Votre religion, quelle qu'elle soit, ne suffit pas. Vos bonnes œuvres, vos actes de piété, je ne sais pas, peut-être la générosité que vous avez manifestée envers une noble cause, tout cela est fort bien, mais ne suffit pas. Non, Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, le Fils de Dieu, peut vous sauver par son œuvre, non par les vôtres. N'essayez pas d'y mettre, si je puis dire, votre grain de sel. Imaginez, hein, que j'aille au musée du Louvre, là, et dans la salle où est exposé un tableau magnifique, tenez, prenons la Joconde par exemple, j'arrive, moi, hein, ouais, je dis quand même, je trouve que Léonard, là, hein, c'est un peu sombre ce tableau, je vais arranger ça. Alors, barbouilleur que je suis, je prends mes pinceaux, mes peintures rouges, vertes, et puis j'ajoute, j'y mets mon grain de sel ou de peinture. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller bien loin, hein, parce que certainement les gardiens me sauteront dessus, me disent, monsieur, c'est un chef d'œuvre, on n'y touche pas. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Ce qu'il a fait, c'est une merveille. C'est un chef d'œuvre. Il n'y a rien à ajouter. Il y a simplement à contempler, non pas le spectacle, ce fut un triste spectacle sur la croix, mais à contempler son œuvre. Et à dire, Seigneur, tu m'as tellement aimé, au point de donner ta vie pour moi, ta vie pour moi. Si quelqu'un vous sauvait la vie, littéralement, hein, si vous étiez en train de vous noyer, que quelqu'un n'hésite pas, il sort sa veste et puis il plonge, là, dans les eaux froides, et il vous arrache à la noyade, certainement vous seriez éperdu de reconnaissance envers cet individu. Si vous étiez dans une maison en flammes, et que là, pareil, quelqu'un dresse une échelle et vous tire de là, mais vous seriez ému jusqu'aux larmes devant celui auquel vous devez la vie. Mes amis, Jésus, il a fait mieux que ça. Mieux que vous arracher à la noyade. Mieux que vous arracher à un incendie. Il vous a littéralement arraché des flammes de l'enfer par son sacrifice, son expiation et son intercession. Qu'attendez-vous pour croire en lui, pour lui dire, Seigneur, devant tant d'amour, je ne peux que céder, je ne peux que t'offrir, eh bien, ce que je suis, ma pauvre vie, pour que tu me fasses grâce. Oh, cet après-midi, et je vais terminer par là, chers amis, venez à lui, tout simplement, humblement, repentant, plein de foi aussi, de confiance, lui dit, Seigneur, je crois et je te remets mon existence avec mon péché, avec mes erreurs, avec mes fautes, avec mes folies même. Je te demande pardon et que par ton sacrifice et par ta prière auprès du Père en ma faveur, cet après-midi même, je sois sauvé. Et il le fera. Faut pas longtemps, vous savez, pour que Jésus sauve quelqu'un. En un clin d'œil, ça se fait. Mais la décision vous appartient. Y aura-t-il quelqu'un cet après-midi qui acceptera Jésus comme son sauveur? Lui qui nous a tant aimés, que son nom soit béni. Prions-le, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père,